Donc, pour ce matin, nous allons lire à partir du verset 32 du chapitre 4 d'Éphésiens. Mais les uns l'égard des autres, soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant des sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. Mais que ni la fornication, ni aucune forme d'impureté ou de cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, pas de paroles folles ou de plaisanteries, ce qui est inconvenant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun fornicateur ou impur ou cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de cela, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc aucune part avec eux. En effet, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt réprouvez-les aussi, car ce qu'ils font en secret, il est honteux même de le dire. Mais tout ce qui est réprouvé par la lumière est manifesté, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne vous montrez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est une voie de débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et apportant la louange de votre cœur au Seigneur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ.
Voilà donc, nous revoilà ensemble pour continuer une étude qu'on a commencée l'année dernière dans cette épître de Paul aux Éphésiens. Peut-être que c'est utile de faire une petite introduction et un rappel de ce qu'on a vu l'année dernière qui permettra de continuer notre méditation aujourd'hui. Paul est en prison et il pense à ses frères et sœurs, et en particulier à cette église d'Éphèse qu'il a visitée. Et il veut leur parler dans le début de cette lettre, d'abord du projet éternel de Dieu. Et vous savez, les hommes sont souvent un peu égocentristes, et ils pensent que Dieu avait comme projet eux, les hommes, nous. Mais vous savez, Dieu a un projet d'abord pour une personne, qui est le centre de son cœur, c'est son Fils bien-aimé. Et le verset 10 du chapitre 1er peut nous le résumer, c'est que Dieu a un projet de réunir en un toute chose dans le Christ, dans son Fils bien-aimé. celui qui, à la fin de ce premier chapitre, il nous est dit qu'il est chef de toutes choses, sur toutes choses, à l'Assemblée. Chef sur toutes choses, la place la plus élevée. La pensée de Dieu, donc, est de, que son Fils soit à la première place, soit honoré, soit glorifié. Mais ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est qu'il a désiré, Dieu, dans son projet, que son Fils soit accompagné pendant l'éternité de personnes qu'il nous dit là, qu'il a voulu faire de ces personnes ses propres fils. Des fils qui soient les compagnons, qui soient liés à son propre Fils, au Seigneur Jésus. C'est le propos éternel de Dieu. Avant toute création, Dieu avait comme projet que des humains accompagneraient dans la gloire son propre Fils. Et ça, c'est une pensée extraordinaire. De penser que vous et moi, nous étions dans le cœur de Dieu avant toute création, Dieu avait des pensées de bien, des pensées de grâce envers chacun de nous. Le problème qui s'est posé, c'est que l'homme a péché. Et il y a une rupture dans le projet de Dieu, en quelque sorte. Alors le chapitre 2 va nous expliquer que Dieu doit récupérer en quelque sorte cette créature qui s'est souillée à cause du péché. Et encore une fois, c'est Dieu dans sa miséricorde qui va trouver le moyen pour que l'homme pécheur puisse être sauvé, puisse retrouver en quelque sorte cette capacité d'être associé à son Fils pour l'éternité. Et c'est là que, lorsqu'il est dit que lorsque nous étions morts, alors, dans sa miséricorde, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble, dans le Christ, avec le Christ. Nous voilà maintenant, Dieu en donne son Fils pour que nous puissions maintenant être libérés de la mort, avoir la vie, être ressuscités, et puis être assis avec le Christ. Christ qui est glorifié, qui est assis à la droite de Dieu. Et nous voilà maintenant associés à lui. Et le péché avait divisé les hommes, avait fait des classes de personnes. Et voilà, dans le Christ, nous voilà tous réunis. Il y avait des conflits, des difficultés. C'est la paix qu'il y a entre tous ces hommes qui se sont confiés en Dieu. Voilà, unis à lui. Chapitre 2. Chapitre 3 de cette épître, mais c'est un peu la question, mais comment est-ce que cette pensée de Dieu va être transmise à l'autre? Qui est-ce qui va transmettre cela? Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui, là, c'est tout étonné que ça lui soit confié, et c'est lui qui va nous révéler ce qui est appelé le mystère du Christ, ou les richesses insondables du Christ. Parce que non seulement Dieu a désiré que les humains soient adoptés, soient ses fils, mais il a aussi ce projet que ces hommes sauvés puissent ensemble former l'épouse de son fils. Il voulait offrir une épouse à son fils. Et cette épouse est formée de tous ceux qui ont cru. Et nous voilà liés maintenant au Seigneur. Vraiment, ensemble nous formons l'épouse de Christ, et ce sera le sujet de cet après-midi. Donc, vous savez, quand on a envie de vivre quelque chose de fort, il faut une motivation. Les trois premiers chapitres de cette épître aux Éphésiens sont ce qui nous donne la motivation. Dieu, même Dieu a pensé à moi, Dieu veut un projet pour moi, un projet pour nous ensemble, alors c'est motivant hein, d'aller dans ce projet, et de rechercher. Alors c'est pour ça que ces trois premiers chapitres, c'était important de souvenir ce que cela voulait dire. Mais la deuxième chose, ça veut dire qu'on n'est pas qu'esprit, avec une relation d'esprit avec le Dieu qui est esprit. Nous sommes sur la terre actuellement. Alors, est-ce que nous allons devoir attendre d'être un jour enlevés là avec, pour être avec le Seigneur et pour vivre des choses extraordinaires? Est-ce que sur la terre c'est possible de commencer? Ou alors est-ce qu'il faut attendre? Eh bien oui, c'est possible de commencer. C'est pour ça que au chapitre 4, c'était le sujet de l'année dernière, je vous exhorte donc c'est la conclusion, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher ou à vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez été appelé, cet appel que je viens de rappeler. Donc, vivre sur la terre. Et alors, c'est pas simple, parce que la terre, aujourd'hui, qui est gouvernée par quelqu'un qui ne veut pas de Dieu, gouvernée sans Dieu, alors nous nous trouvons en opposition souvent avec la manière, et la plupart du temps, avec la manière de vivre de ce monde. Alors, des exhortations, des encouragements, des ordres, marcher, c'est un devoir, nous est donné à partir du chapitre 4. La première partie de ce chapitre qu'on a vu l'année dernière, c'était, vous êtes des frères et sœurs, vous êtes membres les uns des autres comme un corps, vous allez marcher ensemble. Mais on est tellement différents, oui c'est possible, tu as tout préparé et tout prévu. Et l'unité, elle n'est pas basée dans la manière, si vous avez pensé tous la même chose, mais Dieu a créé cette unité, la base, c'est lui qui est la base de l'unité. Et il donne des dons, des capacités aux différents membres de ce corps, aux chrétiens, pour que cette unité puisse dans le concret de chaque jour se vivre. Alors il y a des dons qui sont donnés, et puis chacun, par le moyen de ses dons spirituels, va pouvoir grandir, et chacun, en apportant ce qu'il a reçu, va pouvoir aider à la croissance et à la cohésion de cet ensemble. Le début de chapitre 4, donc marcher dans l'unité. Et puis, à partir du verset 17 et jusque à notre chapitre 5, on avait mis comme titre « Marcher dans la pureté ». Ah, pas comme le reste des nations marche. Oui, parce que l'homme sans Dieu a ses propres règles, mais ce ne sont pas les règles de Dieu, hélas. Ce sont des règles qui sont selon sa propre convoitise. Et nous voilà donc dans un monde qui vit comme ça, et nous alors? Est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir vivre autre chose? Ou est-ce qu'il faudra se mettre des règles difficiles pour essayer de résister? Eh bien, encore une fois, Dieu a tout préparé. Il nous a transformés. Non seulement il nous motive, mais il nous transforme. Et c'est comme ça que le verset charnière, verset 22-23 du chapitre 4, nous montre que nous étions donc il était comme un homme vieux et qui vivait selon ses propres convoitises, ses propres désirs. Et puis nous voilà transformés avec un homme nouveau. Un homme nouveau qui est rajeuni constamment par l'action de l'Esprit de Dieu qui fait que nous allons discerner les pensées de Dieu et avoir la force, la puissance, la capacité de mettre en œuvre les pensées de Dieu. Oui, nous les hommes sur la terre, on peut mettre en œuvre les pensées de Dieu, la manière de penser de Dieu qui va amener des actes selon Dieu et dans la pureté. Et c'est comme ça qu'on a trouvé des contrastes entre le mensonge, la vérité, verset 25. Il y avait ensuite, on a dans les versets suivants, on a la paresse ou le vol, verset 27, et puis travailler pour pouvoir justement user de bienfaisance. Ensuite, il y avait des paroles nuisibles au verset 29, et puis en opposition, le nouvel homme peut vivre quoi ? Donner des paroles édifiantes. Et puis, il y avait de l'amertume, verset 30-31, et puis et de la méchanceté, et en opposition, du pardon et de l'amour. Alors voilà, nous voilà dans ce sujet du chapitre 6, marcher dans l'amour. Alors ça serait notre premier, les versets 1 et 2, c'est marcher dans l'amour. Ensuite, verset 3, au verset 14, marcher comme enfant de lumière, tiens, amour-lumière, ça veut dire marcher comme... ressembler à notre Père. C'est formidable ça, on va pouvoir ressembler à notre Père, celui qui nous a donné la vie. Et puis ensuite, à partir du verset 15, c'est vivre soigneusement dans la sagesse. Et combien nous avons besoin de ça aujourd'hui. Et puis à partir du verset 21 de ce chapitre 5, et ça ira jusqu'au verset 9 du chapitre 6, ça sera, on a mis ça comme titre, vivre harmonieusement. Parce que là, on a des relations de famille, de couple, de parents-enfants, des relations dans la société, dans le travail, etc. Et Dieu aussi a prévu tout cela. Et puis, il y aura à la fin, et ça c'est pour l'année prochaine, c'est la marche de la victoire, parce que voilà, il y a un combat. Donc, tout ça pour dire, on ne peut vivre que s'il y a une transformation intérieure qui est faite. Ce n'est pas par des nouvelles règles que nous pouvons vivre selon Dieu, mais c'est la puissance de vie de Dieu, si on le laisse agir dans nos vies, qui va nous permettre de vivre ce qu'on a dans notre chapitre. Donc ce matin, dans l'amour, comme enfant de lumière en particulier.
Il faut parler plus près des micros.
Non, pas trop près.
Justement, trop près.
On sait que la division en chapitres n'est pas inspirée, et là on nous propose un chapitre entier. Alors, comme souvent on aime, quand on aborde comme cela un texte qui fait 33 versets, essayer de voir un petit peu le plan, tu l'as déjà suggéré Philippe, et pour ce faire, on est parfois guidé par le texte lui-même, et on est toujours heureux de ne pas être laissé à nos propres pensées, et à nos propres schémas intellectuels, mais à trouver dans la parole elle-même des indications qui nous permettent de voir un petit peu les différents sujets qui sont envisagés. Or, il se trouve que dans cette lettre aux Éphésiens, à 7 reprises, l'apôtre Paul utilise le verbe « marcher », 2 fois au chapitre 2, on les laisse de côté, mais surtout, de façon intéressante, 5 fois à partir du chapitre 4. On avait déjà vu l'année dernière, au chapitre 4, verset 1, « marcher d'une manière digne de l'appel ». Ensuite, au verset 17, « ne plus marcher comme le reste des nations ». Et dans notre texte, on va trouver à 3 reprises « Marcher dans l'amour », chapitre 5, verset 1, « Marcher » ensuite, verset 8, « Marcher comme des enfants de lumière », et enfin, verset 15, « Marcher soigneusement ». Et il se trouve aussi qu'on trouve relié quasiment toujours dans le même verset ou juste avant un petit mot de 4 lettres qui s'appelle « donc », et qui est lié justement à ce verbe marcher. Et quand on connaît la façon dont Paul soigne les transitions et son utilisation très fine de toutes les conjonctions de coordination, c'est pourquoi, donc, aussi, etc., on peut bien penser que c'est une intention de l'apôtre, et chaque fois, on trouve ce donc lié au marcher. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière. Voici donc ce que je dis, c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations. Soyez donc imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour. Verset 7, n'ayez donc pas de participation, mais marchez dans la lumière. Et verset 15, prenez donc garde à marcher soigneusement. Et ce petit mot donc ne se retrouve pas ailleurs. Donc ça nous montre bien que l'apôtre avait sans doute cette intention de marquer par ce mot donc et par ce verbe marcher les articulations de sa pensée. Ce qui permettrait, c'est une suggestion, de proposer pour la section que nous avons devant nous, cette marche dans l'amour pour les versets 1 à 6, la marche dans la lumière pour les versets 7 à 14, et la marche dans la sagesse pour les versets 15 à 21. Et ensuite découle la suite. Sauf que, dans un certain nombre de manuscrits, au début du verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris », le verbe « soyez soumises » ou « soumettez-vous » plutôt, ne se trouve pas dans l'original. C'est comme si Paul continuait en fait la pensée du verset 21 en disant « Mais on va faire des applications pratiques tout de suite, et puis je vais vous en donner 3, celle qui va des versets 22 à 33, puis celle qui va des versets 1 à 4 du chapitre 6 et des versets 5 à 9 du chapitre 6. » Donc je vais vous donner des applications immédiates, de sorte que les 3 sphères dans lesquelles nous sommes appelés à vivre, la famille, enfin le couple, la famille et le travail, au sens large, eh bien, découle directement de ce que l'on trouve auparavant. Alors, permettez-moi 2 remarques à propos du donc et de marcher. Premièrement, à propos du donc, c'est que le donc, comme tu l'as dit, ça nous relie à ce qu'on vient de lire précédemment. C'est pour cela que c'était tout à fait opportun de commencer la lecture par le verset 32 qu'on avait vu la fois précédente. Autrement dit, notre vie chrétienne fait un tout. Donc on va marcher dans l'amour, donc on va marcher dans la lumière, donc on va marcher dans la sagesse, et il faut qu'il y ait une cohérence. On ne peut pas dire, mais moi je suis plutôt spécialisé pour marcher dans l'amour, parce que j'aime bien les autres. La lumière, ouais, c'est un peu moins bien, mais enfin, voilà. Non, notre vie chrétienne fait une cohérence. Et tu l'as déjà souligné, amour, lumière, et dans la troisième partie des versets 15 à 21, on va voir une emphase particulière sur l'esprit. Et peut-être on peut relier ça à la présentation de la nature de Dieu que nous fait l'apôtre Jean, d'une manière plus directe, selon son style, que Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est lumière. Et on trouve un peu ces trois éléments-là. Pourquoi ? Parce que cette lettre, comme on l'avait dit, c'est une lettre trinitaire. Et ça aussi, on le retrouve dans notre chapitre 5, en particulier dans les versets 1 à 21, cette présentation trinitaire de Dieu, puisqu'on voit qu'au départ, nous sommes invités à être imitateurs de Dieu. Ensuite, nous sommes invités à être à marcher comme des enfants de lumière parce que nous sommes lumière dans le Seigneur. Et troisièmement, au verset 18, on est encouragé à être rempli de l'Esprit. Donc Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, on retrouve cette approche trinitaire qui parcourt l'ensemble de cette lettre aux Éphésiens et qui nous montre donc que nous sommes en relation avec un Dieu qui s'est révélé vis-à-vis de nous en trois personnes. Un autre point aussi par rapport à marcher. Wetzmanni a donné trois verbes pour cet épître aux Éphésiens. C'est être assis, marcher et tenir ferme. Et c'est vrai que ce sont trois verbes forts de cet épître aux Éphésiens. Donc la première partie nous présente plutôt notre position en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes et comment le plan de Dieu se déploie envers nous. Mais pour ainsi dire, on en est à la fois les spectateurs et les bénéficiaires de ce plan de Dieu, mais on n'a pas une action directe dans ce sens-là. Par contre, dans les chapitres 4 et suivants, nous sommes invités à marcher, c'est-à-dire à avancer dans notre vie chrétienne. Et je crois que si on est venu ce matin passer ce jeudi de l'Ascension ici, c'est parce qu'on a envie d'avancer dans notre vie chrétienne. On a envie de marcher, d'avancer, d'aller un cran de plus. Et c'est ce mouvement que l'Épître veut susciter aussi dans notre cœur. Il faut qu'on avance. Et pour avancer, ce qui est important, c'est effectivement d'abord le but, mais aussi la manière. D'où dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse. Parce que Dieu n'est pas simplement intéressé à la finalité, mais il est intéressé aux moyens. Un proverbe qui ne sera jamais chrétien, c'est « la fin justifie les moyens ». Non, dans les choses de Dieu, il y a et la fin et les moyens. Et alors, encore juste un petit mot, parce que sur deux termes qu'on va retrouver très souvent, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est que dans ces versets, on va retrouver aussi deux mots qui reviennent très souvent, c'est « mais » et « comme ». Pourquoi « mais » ? Parce qu'on est appelé à contraster. On va être appelé à marcher, mais de la parole de Dieu nous présente deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin qui descend, le chemin qui monte, le chemin étroit, le chemin large. Et on va être une nouvelle société, un peuple de Dieu qui est appelé à contraster par rapport à son environnement. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de prendre cette position-là. Difficile pour nous adultes. Le plus difficile, je trouve, c'est pour ceux qui sont collégiens ou lycéens. Parce que c'est une période de la vie où c'est difficile de se démarquer par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu as fait jeudi ? Tu es allé dans une étude biblique, on ne va pas le dire. Ou si on le dit, on ne va pas être compris. C'est difficile. Difficile. Et on va retrouver constamment cela. Mais, et on est appelé à cela. Mais on est soutenu par cela, par les encouragements de la parole, et on est soutenu aussi par le comme. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est un contraste par rapport à ce qui nous entoure, mais c'est aussi un appel à suivre l'exemple de Dieu, du Seigneur Jésus surtout, qui est présenté devant nous comme. Et alors c'est pour cela qu'il y a à la fois ce qui fait contraste et ce qui nous attire, ce comme. Et d'ailleurs, si on veut rentrer dans les détails, l'apôtre utilise d'ailleurs deux mots pour comme qui sont de sens très proches, mais un qui est comme une analogie simple et un autre comme l'exemple vous en est montré. Un terme comme un peu plus renforcé. De la même manière qu'il y a deux petits mots aussi pour mais. Il y a un mais aussi qui est renforcé quand Paul veut dire mais vraiment là il faut que vous contrastiez vraiment. Donc voilà, on voit combien à travers ces répétitions l'apôtre déjà pose des jalons et nous permet de comprendre le développement de sa pensée pour nous aider à mieux rentrer dans ce qu'il veut exposer pour notre bonheur dans ces chapitres.
Pour bien marcher, comme l'apôtre nous le recommande, il faut connaître le bon chemin. Le bon chemin, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Voici, dit-il dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est primordial de le connaître lui en tant que personne et de connaître le chemin sur lequel il convient de marcher, et ce chapitre 5 en est une démonstration pratique. 5 fois le terme « marcher », Joël vient de le rappeler dans les chapitres 4 et 5, et l'élément central, la troisième mention, c'est justement « marcher dans l'amour ». Et à la fin de chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va révéler le chemin le plus excellent, c'est le chapitre 13, c'est justement le chemin de l'amour. Et j'ai toujours été frappé par cette épître aux Éphésiens, qui est une exaltation de notre position de chrétien dans le ciel déjà, Christ étant la tête glorifiée, mais aussi du témoignage que nous avons à rendre sur la terre, en manifestant un amour sans pareil, un amour excellent, un chemin très excellent. Cette épître est écrite aux alentours des années 60, et une trentaine d'années plus tard, lorsque l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, dans les alentours des années 95, eh bien la première chose, et la seule chose d'ailleurs, qui soit reprochée à l'église d'Éphèse, « J'ai quelque chose contre toi, tu as abandonné ton premier amour. » C'est un fait évident pour le Seigneur Jésus, et dans nos relations, c'est un sérieux prends-garde, c'est un sérieux avertissement. Relation entre frères et sœurs dans l'assemblée, relation entre mari et épouse dans le couple, relation entre parents et enfants dans la famille. Le premier amour doit toujours être l'amour vital, l'amour dont l'énergie doit conditionner chacune de nos relations et que nous devons manifester intact. Heureusement que Dieu n'a pas eu des variations d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas regardé à la dépense. Heureusement que le Seigneur Jésus n'a pas eu de variations d'amour. On le lira cet après-midi. Il a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même pour elle. Et Seigneur Jésus, ne t'aimerions-nous pas, avons-nous chanté ce matin en commençant, toi qui pour nous donnas ta vie. Eh bien, essayons de ne pas avoir de variation d'amour non plus à l'égard de celui qui nous a tant aimés. Il en est de même pour Dieu dans sa lumière, parce que si on nous recommande de marcher dans l'amour, dans la lumière, parce que Dieu est amour et parce que Dieu est lumière, écrira l'apôtre Jean dans sa première épître. Il insistera au chapitre 1 et au verset 5, « Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre, aucune variation. Ce que l'on nous demande, c'est la qualité. » Et la qualité de vie sur laquelle on insiste tant au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est de vivre dans ces qualités que le Seigneur veut que nous manifestions, l'amour pur, la lumière et la sagesse. Parce que là aussi, nous pourrions dire que Dieu est sagesse et il a une sagesse excessivement variée. Il suffit de tourner une page dans la même épître, au chapitre 3 et au verset 10e, il est dit que la sagesse, il est parlé de la sagesse si diverse de Dieu, qui soit maintenant donné à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. Notre responsabilité est donc engagée sur ces trois fronts. L'amour, la lumière, la sagesse.
Dans le verset premier, soyez donc imitateurs de Dieu. On ne peut pas imiter quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas l'imiter réellement, et on ne peut pas non plus imiter réellement quelqu'un avec qui on n'a pas de relation. Et nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. De bien-aimés enfants, des enfants qui savent l'amour du Père. Je suis un bien-aimé. Et la preuve en est donnée, nous en a été donnée par le fait que Dieu nous a donné son Fils et par le fait que le Seigneur Jésus s'est offert lui-même, mais comme de bien-aimés enfants.
Imitateur de Dieu. Si c'est pas quelque chose de grand, ça. Ça, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas il faut faire ci, il faut faire ça. C'est on va imiter Dieu. Est-ce qu'on peut aller plus haut, plus grand que imiter Dieu? Et comme vient de le dire Jean-Luc, c'est imiter Dieu comme un enfant imite son père. Donc il y a beaucoup de choses dans ce verset. C'est la grâce, c'est la relation d'un fils avec un père, et c'est imiter. Et la première chose à imiter, c'est aussi pour ça qu'on a fait le lien avec le verset 32 du chapitre 4. Comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné, soyez donc imitateurs de Dieu. Première chose déjà à imiter, c'est le pardon. Et on sait que le sujet du pardon, eh bien, c'est un sujet important qui mine les familles, qui mine les relations sociales avec des voisins, avec des collègues de travail, qui peut miner des églises, parce que le pardon n'est pas bien pratiqué. Imitateur de Dieu. Déjà pour pardonner. Comme de bien-aimés enfants. Ah donc, des enfants, ça imite les parents. Ah tiens, et le pardon alors? Eh bien, ceux d'entre nous qui sommes parents, pratiquons le pardon, parce que nos enfants regardent. Et imiter ses parents, c'est aussi pratiquer le pardon entre soi, dans le couple, et pratiquer avec les autres, pratiquer avec les enfants aussi. Si on a, en tant que parent, dépassé des bornes, eh bien savoir demander pardon à ses enfants. Et puis encourager les enfants à se demander pardon les uns aux autres, à demander pardon aux parents, à demander pardon au Seigneur, à faire cette démarche, parce qu'on apprend en imitant. Et de même que Dieu nous montre cet exemple, eh bien, nous autres dans les familles, montrons l'exemple du pardon à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à ceux qui sont proches de nous, parce que c'est bien important le pardon dans tous les cercles.
On essaie de réfléchir à ces trois mots, marcher dans l'amour. On pressent que ça veut dire beaucoup de choses. Mais comment y arriver? Cette exhortation ne s'adresse d'abord qu'aux croyants, comme de bien-aimés enfants. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu considère toujours la base sur laquelle les exhortations reposent. Nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas l'inconverti qui peut marcher dans l'amour. Nous avons ce titre d'enfant de Dieu. Et c'est dans le souvenir que nous avons été aimés, et même bien aimés, que nous devons marcher dans l'amour. Ça, c'est le côté de Dieu. Et puis, nous avons aussi un autre modèle. C'est très frappant dans ce verset comment cette exhortation « marcher dans l'amour » est encadrée par deux grands modèles, Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Comme aussi le Christ nous a aimés et s'y livré lui-même pour nous. Comme on l'a dit, on ne peut pas avoir de plus grand modèle. Marcher dans l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Jean insistera beaucoup sur marcher dans la vérité. Il se réjouira que ses enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est une grande importance pour lui, dans les temps de la fin. Mais ici, c'est la marche dans l'amour. Là, je vais, pour être un peu plus pratique, je vais risquer un témoignage personnel, plutôt négatif, mais on apprend beaucoup par ses échecs. Là, je vais être très pratique. Il y a quelques mois, nous avons invité un couple de nos amis, frères et sœurs, d'une autre assemblée, chez nous. La conversation entre nous était harmonieuse et détendue. Tout à coup, mais naturellement, ce sujet est venu, je n'ai pas forcé le sujet, je n'avais pas l'intention même qu'il vienne, ce sujet, Un sujet délicat est venu dans la conversation, le sujet de la cohabitation des jeunes avant le mariage. Sujet d'actualité, s'il en est. Bon, je suis même allé chercher un livre de Gérard Ducrozet, parce que je l'avais lu récemment, et il me semblait qu'il y avait des pensées intéressantes et équilibrées sur ce sujet. Et on en a parlé. Tout à coup, le frère s'énerve et dit n'importe quoi. J'étais désolé. J'ai senti que j'avais commis un impair, que j'avais... Je le savais pourtant qu'ils avaient deux enfants qui étaient dans cette situation. J'ai pas été assez prudent. J'ai pas marché dans l'amour. Et je me suis rendu compte que j'ai touché un point sensible dans leur vie. Et vous savez, quand vous avez une blessure au bras, là, ou même un peu ancienne, et que quelqu'un met votre main, sa main sur votre bras, aïe, non, ne me touche pas, là, c'est très sensible. Mais oui, mais les maux de l'âme, c'est pareil. Et ça m'a fait mal aussi parce que je les aimais, ces amis. Et j'ai ajouté à leur souffrance au lieu d'apaiser. Et des fois, apaiser, c'est se taire. Parce que c'est facile de causer quand on n'est pas impliqué directement dans ses enfants ou ses petits-enfants. Mais quand on est touché de près, c'est pas pareil. Et donc, j'avais ajouté à leur souffrance, bon, ça justifiait pas sa réaction, mais on se dédouane pas de sa responsabilité par celle des autres. Je n'avais pas marché dans l'amour. Je l'ai senti. Parce que l'amour, c'est faire attention à ne pas blesser l'autre inutilement. Il faut pas que ça soit volontaire, parce qu'alors là, ça serait vraiment le contraire de l'amour. Mais des fois, involontairement, on peut blesser quelqu'un. Et là, j'en ai vraiment eu conscience. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, quelques jours après, il faut le reconnaître, quelques jours après, j'ai envoyé un mail à ses amis pour leur dire je reconnaissais que j'avais manqué de tact, manqué d'amour envers eux. Et il faut reconnaître quand on a manqué d'amour, au lieu que ça empoisonne des relations pendant des années. Vous savez, c'est délicat de marcher dans l'amour vis-à-vis de quelqu'un qui souffre. C'est délicat. Mais il n'y a pas que ces situations. Il y a aussi marcher dans l'amour en face de quelqu'un qui a péché. Mon frère et ma sœur ont péché. Je veux marcher dans l'amour vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce que je fais? Bon. Eh bien, c'est Matthieu 18. Matthieu 18, c'est personnel, il a péché contre moi, mais ça peut être dans l'absolu, ça peut n'être pas contre moi aussi. Eh bien, on voit dans ce passage que l'amour se met en branle. L'amour veut faire quelque chose. C'est pas automatique que ça ait des conséquences favorables. Si tu as gagné ton frère, c'est pas sûr. Mais l'amour n'est pas indifférent au péché, parce que sinon il ne serait pas l'amour. L'amour, c'est pas dire à mon frère qui a péché ou ma sœur, tu as bien fait, c'est encore pire. Non, il va se mettre en œuvre pour faire quelque chose, d'abord pour prier, pour ce frère, cette sœur. L'amour prie, parce que quand on aime, on prie. Mais peut-être tenter quelque chose, je ne sais pas. L'amour, justement, va nous inspirer ce qu'il faut faire. On voit un exemple dans les Galates, au chapitre 2. Pierre ne marchait pas droit, il avait une attitude double, je ne m'apesantis pas sur la raison exacte, mais Paul a repris Pierre, parce que l'attitude de Pierre pouvait entraîner aussi, elle était grave, parce qu'elle pouvait entraîner d'autres croyants. Bon, eh bien, Paul marche dans l'amour en reprenant Pierre, et Pierre ne lui en a pas voulu. On voit bien dans son épître qu'il a accepté la répréhension. Et troisième situation, peut-être un peu plus générale, marcher dans l'amour, ça a été lu, la lettre a été lue en assemblée, à l'église d'Éphèse, donc c'est entre nous, dans l'église locale, hein, marcher dans l'amour. Je citerai un exemple que mon père nous racontait il y a bien longtemps, quand il était... dans une assemblée dans le sud de la France, qui illustre bien aussi ce que c'est que de marcher dans l'amour. Dans cette assemblée, il y avait un frère âgé qui n'arrivait pas à se relever de son deuil. Et un dimanche, il avait indiqué au culte « Amis, prenons courage ». Bon, quelqu'un d'un peu carré, pour ainsi dire, dit « Mais c'est, non, ça ne convient pas ce cantique, amis, prenons courage au culte ». Eh bien, toute l'assemblée a chanté toutes les strophes par égard pour ce frère. Et ça, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans la grâce aussi, tu en as fait mention, l'amour et la grâce est la forme que prend l'amour en face de la culpabilité, mais aussi en face de la faiblesse, dans bien des passages, c'est la grâce c'est en face de la faiblesse, donc voilà ce que c'est aussi marcher dans l'amour, c'est un peu pratique, mais c'est peut-être un peu nécessaire, pour que c'est une répercussion aussi dans nos vies d'église locales. Et là, nous avons deux grands modèles encore, Dieu et le Seigneur Jésus, pour nous faire marcher, oui, dans cette dynamique de l'amour divin.
Je voudrais... Nous avons vu là des belles applications de l'amour divin, sans vouloir trop déplacer le sujet, mais je voudrais replacer ça dans son contexte. Et nous verrons après qu'il y a une double difficulté pour nous, comme l'on dit, de contextualisation. Paul écrit donc à Éphèse, à ses Éphésiens. C'est une lettre circulaire. Bon, dans les premiers manuscrits, le mot Éphèse ne figure pas, mais on peut penser que ça s'adresse à Éphèse et à ses assemblées d'Asie. Il écrit à des gens qui étaient des païens, qui sont devenus chrétiens. Et je pense qu'il faut lire tous ces passages-là en termes de rupture. Le mot clé, peut-être, c'est, vous l'avez sûrement vu l'année dernière, c'est en Éphésiens 4, verset 17, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent. Ces Éphésiens, devenus chrétiens, ne doivent plus marcher comme ils marchaient autrefois. Alors, comment marchaient-ils autrefois ? Il suffit d'aller à Éphèse ou de regarder une encyclopédie pour savoir les cultes qui se déroulaient dans cette ville et ailleurs. Parce que quand il écrit à Colosse, quand il écrit à Corinthe, même à Philippe, c'était à peu près les mêmes choses qu'on retrouvait dans dans ce bassin de la Méditerranée orientale, on va dire. C'était des cultes qui nous effraieraient, qui nous terroriseraient. En ce sens que non seulement à Éphèse il y avait Diane Artémis, mais tout à l'heure peut-être nous en parlerons, il y avait aussi Bacchus Dionysos. C'est-à-dire c'était des scènes d'orgie, de débauche sexuelle dont on ne peut pas avoir une idée. Et voilà que ces pagano-chrétiens devenus chrétiens doivent marcher tout autrement. Il y a là cette notion de rupture qui nous échappe quand on lit, parce que nous ne sommes pas de cette culture, et qui demande donc un effort, comme je disais tout à l'heure, de contextualisation. Et puis, par exemple, soyez imitateurs de Dieu. Il faut savoir que ces gens-là, peut-être autrefois, s'étaient identifiés à Isis, à Dionysos, ou à Bacchus. Et là, Paul leur dit, attendez, c'est fini. Non seulement vous n'avez plus rien à voir à faire avec ça, mais maintenant vous allez être imitateur du Dieu, du vrai Dieu, dans l'amour. Imaginez le changement culturel extraordinaire. Alors pour nous, la difficulté, elle est double, je dirais. D'une part, parce que nous avons eu la chance et la grâce d'avoir été dans des familles chrétiennes, où on a lu la Bible, on a prié, où ces valeurs, entre guillemets, ont été respectées. Et nous ne mesurons pas complètement ce que cela représente en termes de rupture. Mais la Bible, elle est elle est universelle. Elle est aussi pour les civilisations d'outre-mer. Elle est aussi, et je peux vous le dire, je côtoie un certain nombre de gens qui sont ce que l'on appelle des nouveaux convertis. C'est-à-dire, à la différence de la plupart d'entre nous, ce sont des gens qui ont mené une vie complètement déréglée et qui, un beau jour, ont rencontré le Seigneur. Et alors là, ils peuvent mesurer ce qui était avant et la façon dont ils vivent maintenant. Et je puis vous dire que vraiment, je reçois beaucoup de ces gens-là. Parce qu'ils mesurent ce qu'est vraiment la rupture, ce qu'est la vie chrétienne, comme ils marchaient autrefois et comme ils doivent marcher maintenant. Et je puis même vous dire qu'ils mettent la barre plus haut que nous. Parce qu'ils savent ce que ça représente, que la puissance des ténèbres, que ce que ça représente l'occultisme lorsqu'ils en ont été délivrés. Et nous avons des leçons à recevoir de ces gens-là. Et une fois, je disais à l'un de ses amis, ben moi, j'ai pas un témoignage comme ça à raconter. Je peux même pas dire quand je me suis converti, sûrement très jeune. Je priais avec ma foi d'enfant, et puis les choses ont changé. Et lui m'a tout de suite arrêté. Il m'a dit, mais ne regrette surtout rien, parce que moi, ce que j'ai vécu, eh bien, j'en ai été délivré, mais il n'en demeure pas moins que je l'ai fait. Alors le Seigneur, bien sûr, pardonne. Il y a tous ceux, aucun péché pour ceux qui sont en Christ, mais il n'en demeure pas moins que ça reste quand même un poids, comme Paul avait persécuté l'Assemblée, et malgré tout, il y en avait toujours quelque chose qui restait. Alors je pense que la difficulté, elle est double, d'une part parce que nous vivons, nous n'avons pas vécu dans ce monde païen, et d'autre part pour les jeunes aussi, parce qu'ils ont été élevés dans des familles chrétiennes, dans des familles, on va dire, et on est mal pensé, harmonieuses sous le regard du Seigneur. Et pour eux, c'est une difficulté. Il n'en demeure pas moins que, comme cela a été dit il y a un instant, pour les jeunes, ils doivent la mesurer, cette différence, cette rupture. Et on sait très bien que dans le monde étudiant, eh bien, il se passe des choses sous forme en début d'année ou lors des fêtes ou à la fin des examens, par exemple, ou le week-end, qui sont pas si éloignés que cela de ces cultes de Dionysos, où l'alcool coule à flot, où la drogue est à portée de main. Donc, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est réelle. Hier, aujourd'hui, pour nous, pour les jeunes.
Imiter Dieu, effectivement, c'est pas imiter les divinités de la mythologie dont on sait effectivement un petit peu quelles étaient les dépravations, qui étaient à la fois le reflet des dépravations de l'homme, on pense à Romain 1, et aussi un encouragement à imiter leur propre Dieu dans leur inconduite. Mais pour nous qui connaissons le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, imiter Dieu, ça peut nous paraître aussi un petit peu délicat, parce que la parole de Dieu est très claire pour réaffirmer souvent notre statut de créature, créature déchue maintenant rachetée, et née de Dieu, on l'a vu, mais néanmoins de créature. Alors comment vais-je imiter Dieu ? Alors on sait qu'il y a des attributs de Dieu qui sont communicables, c'est des attributs moraux, c'est un amour, sa justice, sa sainteté, donc là que nous sommes appelés à imiter. Par contre, il y en a d'autres, sa capacité créatrice, son omniprésence, cela nous ne pouvons pas les imiter. Et peut-être qu'on peut être aidé par un verset, parmi d'autres, hein, je pense à la fin de Matthieu 5, qui a un lien assez clair, me semble-t-il, avec notre texte. Matthieu 5, verset 43, le Seigneur cite un texte de la loi qui était prolongé après. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les injustes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même ne font-elles pas ainsi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, un autre texte que l'on trouve dans ce même chapitre 5, c'est par exemple être procurer la paix. parce que c'est ceux-là qui seront appelés fils de Dieu, c'est ceux-là qui imiteront Dieu. Alors, la traduction dans laquelle nous lisons la plupart d'entre nous dit « soyez donc imitateurs ». On pourrait mieux traduire en disant « devenez progressivement donc imitateurs de Dieu ». Le verbe, c'est pas « être », c'est « devenir » plutôt. « Devenez progressivement imitateurs de Dieu ». Parce que cette imitation de Dieu se fait progressivement. Cette imitation de Jésus-Christ, un des livres chrétiens les plus diffusés au cours des siècles. Et elle se fait à l'exemple de quelqu'un, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour des gens qu'il aimait, non. Donc on voit que l'amour, cette imitation de Dieu dans l'amour, elle se fera d'autant plus nettement que ce sera dans un contexte qui n'est pas a priori positif. Alors ce verset 2, c'est comme des fulgurances, comme on en trouve dans cette lettre ou dans d'autres écrits de Paul. Tu nous avais présenté il y a quelque temps les chants des apôtres et ces doxologies, ou comme cela, en particulier l'apôtre Paul, d'un seul coup, quand la mention du Seigneur Jésus est faite, il soit éclate en louange, soit il donne une expression comme celle qu'on avait vue l'année dernière au chapitre 4 et au verset 9, descendu, monté. Et là, l'apôtre, quand il parle de cet amour du Seigneur Jésus, qui est donc un exemple pour nous, il dit, il s'est livré lui-même à nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur, une expression qui est sans doute l'expression du Nouveau Testament la plus proche de ce type qu'on trouve dans l'Ancien Testament de l'Holocauste. L'Holocauste qui était un sacrifice en parfum de bonne odeur. On sait qu'il y avait deux types de sacrifices. Il y avait des sacrifices qui étaient en offrande agréable à l'Éternel en parfum de bonne odeur. Et il y en avait deux en particulier qu'on trouve peut-être derrière ces termes-là, du moins si on prend les traductions qui peuvent en être faites dans la Septante, c'est comme offrande, ça nous fait penser à cette offrande de gâteau, la vie du Seigneur Jésus, et sacrifice à Dieu, l'Holocauste, la mort du Seigneur Jésus. Donc la vie et la mort du Seigneur Jésus ont été quelque chose qui ont fait le bonheur de Dieu, si on ose le dire cela, en parfum de bonne odeur. Mais j'aimerais ajouter deux choses par rapport à ce sujet-là. D'une part, c'est que je trouve intéressant cette association entre offrande et sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dissocier la vie du Seigneur Jésus de sa mort. Il a fallu l'incarnation pour qu'il y ait la mort à la croix, et la mort à la croix s'appuyait sur la perfection démontrée au cours de la vie du Seigneur Jésus. Donc offrande et sacrifice à Dieu. Et la deuxième remarque, c'est à Dieu, mais qui a relié à « pour nous ». Pourquoi ? Parce que le sacrifice du Seigneur Jésus, il était pour nous. C'est parce que nous étions dans une situation telle que pour être agréable devant Dieu, pour être agréé plus exactement, pour reprendre l'expression du début de cette lettre au chapitre 1, pour reprendre l'expression de Lévitique 1, pour être agréé devant Dieu, eh bien il fallait un sacrifice. Parce qu'en tant que tel, nous n'étions pas agréés. Able, au sens de digne d'être agréé devant Dieu. Et que faisait l'Israélite quand il venait avec son taureau, avec son agneau, et qu'il voulait offrir un holocauste ? Il posait la main sur lui dans un signe d'identification. De sorte que il est parfois un peu exagéré de présenter l'holocauste comme un sacrifice de Christ à Dieu, indépendamment de nous. Et le texte ici est très clair. Pour nous, en sacrifice à Dieu, parce que c'est vis-à-vis de Dieu que ce sacrifice a été offert, mais c'est pour nous. La main était posée sur la bête. Il y avait cette identification qui permettait cet agrément. Donc là, on monte très haut, et comme souvent dans cette lettre aussi, pouf, au verset 3, on redescend, semble-t-il, très bas. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul est tout sauf un mystique. Et il ne veut pas qu'on se promène dans la stratosphère de réfléchir sur l'Holocauste, sur les détails de l'Holocauste, sur que signifie laver l'intérieur, etc., en oubliant que, excusez-moi l'expression, mais ras des pâquerettes, il y a quand même des choses à éviter et des dangers, et qu'il vaut mieux appeler un chat, mais pas trop souvent. C'est exactement ce qui est son propos ici. Donc il dit, il y a cet amour de Dieu, cet amour qui se donne, et puis il y a une contrefaçon de l'amour. Et là, je reviens à ce que Gérard disait il y a un instant. Il y a une contrefaçon de l'amour qu'on va trouver dans les versets 3 à 5. Cette contrefaçon de l'amour se vit par la fornication, se vit par l'impureté, se vit aussi par la cupidité. trois facettes, auxquelles répondent aussi trois autres facettes au verset 4, aucune chose honteuse, ni parole folle et plaisanterie, donc 3 et 3. Et donc c'est des contrefaçons de l'amour. Et Paul il dit, attention, ne vous y trompez pas, l'amour, on a vu, c'est un amour qui se livre. Et aujourd'hui on appelle amour ce qui n'est pas l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est très difficile le terme amour. On pense que l'amour c'est une chose simple, c'est pas vrai du tout, c'est difficile. Il y a même un livre que je vous recommande, malheureusement c'est en anglais, il s'appelle « The Difficult Doctrine of the Love of God », la doctrine difficile de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que la conception de l'amour qu'on a aujourd'hui, elle est tellement éloignée dans certains aspects de la conception biblique de l'amour que la notion d'amour devient quelque chose de difficile. L'amour, ce n'est pas copuler, l'amour, ce n'est pas tomber amoureux et c'est tout. L'amour, c'est se livrer, on le reverra cet après-midi plus en détail certainement, mais l'amour, c'est nous a aimés, c'est-à-dire il s'est livré lui-même pour nous, lui-même aussi. L'amour, c'est le don de soi. Ce n'est pas prendre, c'est donner. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement de ce texte et surtout le cœur de l'exemple que nous a donné le Seigneur Jésus.
Et ce qui ressort de ce texte-là, c'est non seulement se donner, mais ce n'est pas se donner pour se valoriser, qui est un sentiment humain, puisque le Seigneur est mort pour cela. Donc il a donné sa vie. C'est pas du tout dans le sens de se montrer ou de se valoriser. Alors, tu as dit tout à l'heure que, tu viens de dire que l'apôtre Paul est tout sauf un mystique. C'est très frappant de voir qu'en Philippiens 4, il emploie pratiquement la même expression pour quelque chose qui nous paraîtrait banal. Philippiens 4, verset 18. Lorsqu'il dit « j'ai amplement de tout, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. » Alors ce n'est pas tout à fait la même expression, il n'est pas question de offrande ici, mais c'est quand même quelque chose qui nous frappe dans... Montrer, manifester, plaire à Dieu, dans le sens qu'on trouve aussi dans Tite 2, de orner, il faut que les jeunes gens ornent, eh bien, ça se fait dans tous les détails, dans toutes nos actions. Et là, l'apôtre Paul montre que ce qu'il avait reçu, le don qu'il avait reçu, était quelque chose qui plaisait aussi à Dieu.
En méditant ce que nous venons de méditer, nous réalisons bien que nous avons besoin de tout le secours du Seigneur pour pouvoir ainsi marcher dans cet amour. Et on voit comment l'apôtre donne la mesure parfaite, c'est le Seigneur lui-même qui a marché parfaitement dans l'amour. Quand on pense que pendant tout son ministère, le Seigneur n'a pas fait d'exception avec Judas. Il aimait aussi bien Judas que les autres disciples. Voilà comment marcher dans l'amour, pourtant il savait qu'il le livrerait. Voilà, c'est un exemple du Seigneur qui a marché parfaitement tout à la gloire de son Père. Mais l'amour va jusqu'à la mort. L'amour est fort comme la mort, il nous est dit dans la parole. Et le Seigneur ainsi s'est livré lui-même. Et combien l'apôtre ne l'avait pas oublié, puisqu'il dira, le Fils de Dieu m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Voilà un exemple merveilleux de l'amour. Mais pour nous marcher, il faut regarder vers lui. Il faut regarder vers lui. Il ne nous est pas possible de marcher dans l'amour si nous regardons à nous-mêmes. Et on va voir comment Satan va agir pour nous empêcher d'avancer dans ce chemin-là. On va voir à partir du verset 3 comment il y a nos cœurs naturels. Il y a ce qui nous... Nous sommes dans des corps d'infirmité, dans les tentations, dans les paroles, etc. Et cela, c'est une barrière qui nous empêche d'avancer.
L'apôtre Paul, ici, à partir du verset 3, dans ses exhortations pratiques qui ont été écrites il y a 2000 ans, mais on dirait qu'elles ont été écrites la semaine dernière, tant elles sont d'actualité, et qui montre que la parole est vivante et permanente, Eh bien, on pourrait dire que l'apôtre Paul ici fait du préventif. C'est-à-dire qu'il exhorte les croyants d'Éphèse et nous, qui arrivons bien longtemps après, en vue que nous ne péchions pas. L'apôtre Jean, dans un passage que nous connaissons bien, fait du curatif. Si quelqu'un a péché, et c'est un peu tard, enfin, le chrétien qui a péché n'est jamais dans une voie sans issue. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, il faut le savoir. Mais il vaut mieux ne pas pécher. Et là, il fait du préventif pour que nous ne péchions pas. Alors, nous sommes entourés aussi de fornication, d'impureté, de cupidité. L'argent gouverne le monde, pas tout à fait. L'amour de l'argent gouverne le monde. On l'a dit bien des fois, l'argent, c'est pas n'est ni bien ni mal. C'est comme la technologie, c'est ni bien ni mal. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Eh bien, l'argent devient un dieu. J'ai même lu, il n'y a pas longtemps, dans un grand quotidien, c'est bien lié à l'actualité, cette question, je crois que c'était dans Le Monde même, ne faudrait-il pas déboulonner le dieu argent? Vous vous rendez compte? Même les incroyants se demandent s'ils n'ont pas allé un peu trop loin. Et nous savons bien que c'est un dieu. Le Seigneur Jésus l'a dénoncé, d'ailleurs, maman. Bon. Eh bien, Paul exhorte les Éphésiens et nous aussi. Il revient aussi sur la parole. Il était déjà venu sur la parole des honnêtes. Selon la vérité, selon ce que dit Jacques, si quelqu'un ne est parfait en tout, mais s'il pêche, Jacques dit, si quelqu'un ne pêche pas en parole, il est parfait. Donc ça veut dire que nous péchons le plus facilement en parole. Et c'est peut-être pour cela que l'apôtre revient encore sur ces paroles folles. Alors dans d'autres versions, ces paroles grossières et équivoques. J'ai bien aimé dans une version ce mot équivoque. Dans des conversations, nous, entre incrédules, vous voyez des paroles équivoques. Eh bien ça ne doit pas être dans la bouche d'un chrétien. Et je note ceci que Paul, quand il nous exhorte, il le fait sérieusement et il emploie des arguments de plus en plus forts. Il y a trois arguments qu'il emploie pour toucher nos consciences et qui sont de plus en plus forts. Le premier argument, cela ne convient pas à des saints. Au verset 4. Et ça n'est pas en harmonie avec votre titre d'enfant de Dieu, de ceux qui ont l'amour de Dieu, ont l'amour divin comme modèle. Et puis au verset 5, il dit cela, en effet, vous le savez, il y a des choses que les Éphésiens savaient, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Deuxième argument, qui est plus sérieux que le premier. Le premier, ça ne convenait pas. Mais attention, il n'héritera pas du royaume de Dieu. C'est une chose très sérieuse de ne pas pouvoir hériter du royaume. Et encore, troisième argument qui est encore plus fort, vous le savez, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. À cause de cela. C'est l'argument massif que Paul emploie pour des croyants. Est-ce que ces passages sont là pour nous effrayer, pour nous dire que si nous avons péché, nous allons être perdus? Non. Non, non. Le Saint-Esprit n'est jamais là pour ébranler notre foi. Mais alors pourquoi Paul prend ces arguments, en tout cas les deux derniers, qui touchent au salut? Eh bien, pour parler sérieusement aux Éphésiens, pour nous parler sérieusement à nous, c'est pas léger ce passage. Mais encore une fois, si quelqu'un a péché, si la réunion à La Rochelle arrivait trop tard dans la vie de quelqu'un, eh bien, qu'il confesse son péché et il obtiendra miséricorde. Et Dieu efface ce péché et l'oublie. Ça aussi, c'est dans la parole.
Un cantique debout, le 243 des hymnes et cantiques.
Je voudrais revenir rapidement sur ces versets 3, 4, 5. Bien sûr, l'arrière-plan, c'est la sexualité. On ne va pas nier le fait. Je pense qu'on peut en parler tout à fait librement. La sexualité, le dérèglement en acte, en pensée et en parole. Il y a un lien, bien sûr, entre les trois. Lorsque je suis arrivé tout à l'heure dans cette ville d'Erré, en arrivant, tout le monde a dû le voir, c'est Étré. Il y avait un grand panneau, on ne pouvait pas ne pas le voir, qui disait que c'est, il y a le salon de l'érotisme, quelque chose comme ça, et on voyait une femme à moitié dénudée. Personne ne pouvait ne pas la voir. Ça montre bien où nous en sommes. Ces gens-là, nous l'avons dit tout à l'heure, avaient un arrière-plan païen. Ce qui me frappe, c'est ce qui est dit à la fin au verset 3, ces choses-là ne soient même pas nommées parmi vous. Même pas nommées. Vous ne devez même pas les évoquer, ni même en parler. Ça me rappelle un voyage que j'avais fait en Haïti, dans les Antilles, où, à l'issue du culte, j'avais été voir un des anciens, et je leur avais dit, mais c'est curieux, vous n'utilisez même pas les tambours, la percussion, des fois ça apporte un certain rythme. Oh, il m'a dit, surtout pas, parce que pour vous, ça ne vous dit rien, mais pour nous, ça nous rappelle des choses. Dans notre subconscient, dans notre inconscient, parce que ces tambours étaient étroitement liés à des cultes païens, au vaudou, auxquels nous avons participé autrefois. Alors même si pour vous, ça marque une rythmique, un rythme, pour nous, il y a des résonances très profondes dans nos cœurs. Et voyez, ces Éphésiens devaient ne même pas en parler. Ça ne devait même pas être évoqué. Alors, nous vivons, nous, dans un monde où la sexualité débridée fait l'objet non seulement d'une publicité, mais rapporte beaucoup d'argent, et nous savons bien tout ce que cela représente. Et même les chrétiens ne peuvent pas rester à l'écart de cela, les ignorer tellement, c'est évident, affiché sur les murs de nos villes. Alors, on a cité Watchman Nee, moi je vais donner une référence qui est un peu incongrue, c'est Benoît XVI qui a écrit un ouvrage remarquable sur Dieu est amour. Il vaut vraiment la peine d'être lu, c'est un petit fascicule qui se trouve facilement. Et il développe cette pensée, à savoir que l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour divin, celui qui donne, on l'a évoqué, par rapport à Eros, hein, cet amour qui saisit, qui prend, eh bien, en fait, et même Philéo, ne sont pas étrangers les uns aux autres. Il n'y a pas opposition. Dans un couple, l'amour divin et l'amour charnel, c'est quelque chose qui est intimement lié. Et c'est très important de le savoir pour les jeunes, parce que l'Église a fait du péché sexuel le péché le plus grave, etc. Il y a toute une sorte de mythologie là-dessus, à savoir que la sexualité c'est quelque chose de mauvais, qu'il faut éviter, les prêtres pratiquent l'abstinence, etc. Non, c'est au contraire quelque chose de très bon. Il faut que les jeunes le sachent, n'est-ce pas, ceux qui sont jeunes mariés, les jeunes qui sont parmi nous. Mais dans un cadre béni et voulu par Dieu. Alors, cette sexualité déréglée, désordonnée, telle qu'elle était pratiquée autrefois, non, alors surtout pas. Ça se retourne contre l'homme, c'est l'égoïsme. Quand nous avons lu Marcher dans la lumière, ça s'oppose bien sûr aux ténèbres, à l'occultisme, à tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais la sexualité en tant que telle, c'est quelque chose de merveilleux, nous pouvons le dire et rassurer les jeunes.
C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a cette mention des actions de grâce à la fin du verset 4. C'est que dans le cadre voulu par Dieu, la sexualité... c'est les actions de grâce. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre dans nos couples chrétiens, de remercier Dieu pour la possibilité de traduire physiquement l'amour que Dieu met dans le cœur de l'un pour l'autre. Les actions de grâce.
Si on reprend donc les trois expressions, fornication, impureté, cupidité, fornication, pour être précis, il semble bien que ça couvre tout ce qui soit relation sexuelle hors mariage, donc adultère quand il y a un couple qui est concerné, qui était marié et qui a une relation hors mariage, et puis avant mariage, hors mariage, de façon générale, fornication. Impureté pourrait couvrir probablement l'homosexualité et pornographie et autre chose. On verra tout à l'heure dans le jugement dont a parlé Lucien tout à l'heure, la colère qui est tombée, on aura un exemple de colère avec une colère contre la fornication dans l'histoire du peuple, et puis contre l'homosexualité avec Sodome, Gomorrhe, Giba. Et puis cupidité, c'est je veux tout plein de choses tout de suite, argent ou autre chose. Et en fait, on comprend le lien maintenant entre les trois, parce que tu viens de parler de Eros, l'amour qui prend, si on le dit mal. Et en fait, les trois choses sont liées, parce que c'est je veux tout de suite, et puis j'en veux toujours plus, et puis c'est un peu le puits sans fond. C'est un peu l'état d'esprit d'Ésaü. Il arrive, il rentre de la chasse, il a faim, je veux tout de suite de ta soupe, là, je veux ton roux, donne-moi ton roux, de toute façon que je m'en fiche du droit d'aînesse. Donc c'est là, tout de suite. Dans le cadre, c'est beau, ce qu'on vient de dire, dans la sexualité, dans le cadre voulu par Dieu, c'est magnifique. Si je veux tout de suite, pour moi, plutôt que pour donner, eh bien, ça se rapproche à cette cupidité, vouloir tout de suite. Alors, il fallait même pas en parler. Alors, même si on en parle un petit peu aujourd'hui, on essaye de rester sobre. On a un exemple dans la Bible de quelqu'un qui s'est fait son film sur le péché d'un autre. Quelqu'un qui s'est fait son film sur le péché des autres. Et ça nous guette, parce que on aime bien éventuellement des fois raconter les choses qui se sont passées à d'autres, etc. Et en fait, en racontant, eh bien, il peut y avoir dans notre cœur ou dans le cœur de celui qui écoute un écho, Et c'est l'écho qui souille, c'est ce qui sort du cœur qui souille, hein. C'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort, mais on est souillé par l'écho qu'il y a dans notre cœur à ce qui est raconté. Alors, qui est la personne qui s'est fait son film? Eh bien, c'est le fils aîné. Le fils aîné et le fils prodigue, vous savez qu'à la fin de la parabole du fils prodigue Luc 15, eh bien, le fils aîné, il s'est fait son film, puisqu'il est dit, il dit à son père, voilà, je te sers tant et tu n'as jamais donné aucun chevreau, mais ton fils qui a mangé ton bien avec des prostituées. Il est venu, tu as tué pour lui le veau gras. Mais c'est pas dit dans le texte avant. Il a vécu dans la débauche. Mais on donne pas de détails. Il y en a un qui s'est fait son film, c'est le fils aîné. Et ça nous arrive, évitons ça.
Je ne sais pas si on peut dire un mot là sur pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. C'est vrai que Lucien nous disait que si notre pratique, si notre manière de vivre d'une manière générale, c'est ce qu'on voit précédemment, c'est vrai qu'on n'a aucune part avec ce royaume, on ne fait pas partie de ce royaume. En quelque sorte, on n'a pas la vie. Même si on peut dire je suis chrétien, mais si ma manière de vivre est résumée dans ce qui précède, c'est évident. Mais pensons aussi que lorsqu'il est parlé du royaume du Christ et de Dieu, c'est pas seulement pour un futur, c'est pour un présent. Et le présent, c'est ce royaume, c'est la sphère où on peut profiter de tout le bien que Dieu donne aujourd'hui. Alors, il ne donnera pas obligatoirement une maison, un travail, mais il donne, dans la relation qu'il veut avec nous, une paix profonde. Il nous donne la joie profonde. Il nous rend satisfaits. Il nous rend vraiment heureux. Au milieu d'un monde qui ne connaît pas tout ça. Eh bien, si nous pratiquons même ponctuellement des choses qui sont décrites avant, eh bien, nous perdons cela. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas profiter de tout le bien que Dieu veut nous donner déjà aujourd'hui. Alors ces deux aspects, Dieu veut bénir, et l'autre côté c'est le fait de vivre dans la soumission à Dieu. Et ça c'est notre sécurité. Eh bien on perd tout ça, et on ne sait plus où on en est, et on dérive. Et c'est pour ça que quand il est parlé du royaume du Christ et de Dieu, c'est pas seulement pour avoir ou non une place dans le futur. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui nous promet des choses pour le futur. Mais l'héritage qu'il veut nous donner, c'était le sujet des premiers chapitres de cette épître, c'est vraiment le fait de réaliser que je suis aimé. Mais chacun a besoin de sentir que je suis aimé de quelqu'un, oui, de Dieu, du Dieu créateur, de celui qui ne se trompe pas et qui ne varie pas. Eh bien, le fait de vivre ce qu'on a vu dans les versets précédents nous prive de ça. Et on se retrouve complètement désorienté. Et c'est pour ça qu'on peut être dans la dépression. Hein, je ne dis pas que la dépression n'est que ça, mais voilà, parce qu'on a perdu la jouissance du lien avec notre Père. Ça continue, mais n'ayez donc aucune part avec eux. Et on avait parlé de rupture tout à l'heure. On avait, au début du verset 4, c'est combien des saints, des personnes qui ont été séparées, mises à part. Alors, aucune part avec eux. On a changé de famille, de domaine, de relation, d'autorité. Et alors, vous étiez autrefois ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.
Je veux juste insister sur quelque chose avec ce que tu viens de dire, Philippe, quant à la participation positive. Il y a quelque chose de très fort qui a été exprimé de diverses manières que je voudrais souligner pour que chacun le garde en mémoire et qui est dans les deux premiers versets la chose très forte. C'est celle-ci, Dieu aime en vue du profit et du bien de l'autre. Si je ne regarde pas l'autre en cherchant à lui faire du bien, à amener à produire quelque chose chez lui qui l'élève, qui le grandit, je ne marche pas dans l'amour. Ça, c'est quelque chose de très fort. Vivre la vie de tous les jours, vivre la vie dans notre assemblée locale, en regardant l'autre et en se disant, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider ? Il y a quelque chose qu'on a exprimé tout à l'heure, que je trouve aussi presque systématiquement, c'est que quand je marche avec cette pensée-là, en allant dans ce sens-là, l'autre vit ou dit quelque chose qui m'apporte à moi aussi quelque chose. Alors, il y a l'échange dans l'amour. Et ça, c'est la saveur de la participation positive. C'est très important de voir cette participation. Ici, nous est présenté le côté négatif avec les conséquences, le désagrément, il y a une perte de saveur, une perte de joie personnelle, mais le côté positif, c'est une culture magnifique et un chemin à travailler tous les jours.
Il est beaucoup parlé dans ce passage, donc d'abord de l'amour, et puis aussi de la lumière. La lumière, c'est une image. Et il faut toujours voir au-delà de l'image. Les images nous sont données pour essayer de comprendre quelque chose de spirituel. C'est une image extrêmement forte, extrêmement belle, extrêmement complexe. Qu'est-ce que la lumière ? Les savants creusent depuis des décennies sur ce qu'est véritablement la lumière. Nous en bénéficions dans cette salle sans nous en rendre compte de la lumière. Si on fermait tout, on verrait la différence. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Moi, j'aime dire que la lumière, c'est la connaissance des pensées divines, la connaissance des pensées de Dieu. D'ailleurs, même dans le langage courant, on dit par exemple le siècle des lumières, on pourrait tout aussi bien remplacer par le siècle des connaissances. Et quand le Seigneur Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde », il me semble qu'il faut comprendre, moi je vous apporte la connaissance des pensées divines, moi je vous apporte la connaissance de Dieu, aussi sur l'homme, parce que l'inconverti ne sait même pas qui il est, il ne sait pas qui est Dieu, il ne sait pas ce qu'il est. Et il y a un passage des évangiles où le Seigneur, j'aime à dire, braque son projecteur sur nous, sur l'homme en général, et il dit, du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, etc. C'est pas beau quand il braque le projecteur sur nous, hein. Mais heureusement qu'il ne fait pas que cela, le Seigneur. Il est venu pour être lumière, la lumière du monde aussi. Je dis respectueusement, pour braquant le projecteur sur Dieu, nous faisant connaître Dieu, les pensées de Dieu, les intentions de Dieu à l'égard des hommes. Je crois que c'est ça, la lumière. Et quand il est dit que nous sommes enfants de lumière, je comprends que ces enfants de Dieu sont porteurs des connaissances, de la connaissance des pensées divines. Et que c'est cette connaissance des pensées divines, et là encore c'est une image qui a trait à la lumière, nous illumine intérieurement, c'est tout clair. On dit par exemple la place de la sexualité. Mais si on n'avait pas la parole de Dieu, nous aussi, on ferait n'importe quoi. On ne comprendrait pas à quoi ça sert et dans quel cadre. Mais on a la lumière des pensées divines sur ce sujet, comme sur d'autres, sur le salut, sur notre marche, par rapport à beaucoup de choses. On a la connaissance des pensées divines. Et on est privilégié d'avoir cette lumière. Il y en a qui, autour de nous... Bon, Dieu connaît la responsabilité de chaque homme, mais il y en a qui pêchent sans savoir même qu'ils pêchent. Parce qu'ils n'ont pas la lumière des pensées divines. Mais nous l'avons. Alors c'est plus grave si un chrétien pêche, dans un sens. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut se repentir. Alors ces versets sont pleins de cette pensée de la lumière. On pourrait dire aussi le fruit de la lumière, le fruit de la connaissance en moi, le fruit, les résultats, c'est encore On a plein d'images. Le fruit, c'est une image. La lumière aussi. Le résultat pour Dieu, qui vient à maturité. Le fruit nous fait penser aussi que c'est pas le chrétien ne fait pas des bons, il fait des progrès. Si vous regardez une pomme, par exemple, mais c'est le résultat de 8 mois de plus, 8 mois depuis la floraison et toutes les étapes, c'est quelque chose de lent, le fruit. Et quand il est parlé dans les Galates du fruit de l'esprit, il faut penser que c'est quelque chose, c'est un processus qui va être lent dans le croyant. Peut-être nos progrès sont lents, mais il vaut mieux qu'il soit lent et solide. Et c'est ça le fruit. Et le résultat de la réception de la lumière, enfin, là j'emploie encore l'image, le résultat de la connaissance des pensées divines qui sont en chacun de nous. Voilà, ouais, il me semble que c'est ce que veut dire le fruit de la lumière. Si on le décrypte en langage spirituel, avec ces images, elles nous aident énormément, mais il faut toujours creuser une image. Et si on répète toujours lumière ou fruit, on est un peu au-dessous de ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Le fruit de la lumière. Et après, l'expérience de ces différents fruits sont là devant nous.
On a cette association entre lumière et fruit qui passe par la vie, puisque la photosynthèse est à la base de la génération de la vie sur la Terre. On sait bien que s'il n'y avait pas de lumière, la vie ne pourrait pas aussi se développer, en particulier la vie végétale. Donc on a cette souplesse qu'on trouve souvent dans l'écriture entre les symboles, où on passe d'une image à l'autre, comme là de l'image de la lumière à celle du fruit. Juste quelques petites remarques. Au verset 8, on a ce contraste absolu. Autrefois, mais maintenant. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui a une conversion marquante, la fracture est peut-être plus marquée que pour un certain nombre d'entre nous dans cette salle, mais au moins conservons cette idée que quel qu'ait pu être le contexte familial dans lequel on a été placé depuis notre enfance, quelques graduels qu'ait pu être notre approche de la foi, néanmoins, il y a eu un autrefois et il y a un maintenant. Et on est passé de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres au royaume de l'amour et de la lumière. Paul développe ça différemment dans Colossiens 1. On est passé de ce qui était ténèbres vers la lumière. Donc il y a ce changement radical de position et qui est marqué en particulier comme par ces termes de fils et d'enfant. Alors là, ce sont des hébraïsmes qui sont assez souvent utilisés, fils de la désobéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui sont caractérisés par la désobéissance. Comme on trouve assez souvent cette expression, c'est comme aussi pour Père, quand il est dit que Dieu est le Père de gloire, ça veut dire que Dieu est l'origine de toute gloire. Et tandis que quand on est fils de la désobéissance, on est caractérisé tellement par la désobéissance qu'on est fils de la désobéissance. Le Seigneur dit « Vous êtes les fils du diable ». Pourquoi pas génétiquement, bien entendu, mais parce qu'ils sont caractérisés par la même désobéissance et la même opposition que le diable avait marquée dès le commencement, lui qui était le menteur. Et là, par contre, on est appelé enfant de lumière. Et donc, comme tu le disais, Lucien, on est caractérisé par cela, et ça se traduit immédiatement en des fruits. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que parfois, dans nos schémas un peu trop tranchés, en France on est très cartésien, on oppose, on dit, oui, il y a le Dieu de lumière, mais il y a le Dieu de l'amour. Dieu est amour, mais aussi Dieu est lumière. Et derrière lumière, on va peut-être pas mettre tellement connaissance, on va plutôt mettre des notions comme justice, comme sainteté, comme vérité, etc. Et je trouve magnifique cette expression du verset 9, le fruit de la lumière consiste en toute justice et vérité. Ça colle tout à fait avec notre idée a priori de la lumière, mais Paul ne commence pas par cela, il commence par toute bonté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition dans la nature de Dieu. De sorte que il faut qu'on fasse attention à nos expressions, en particulier dans le culte. On ne dit pas tu as manifesté ton amour, mais tu as, Dieu, aussi manifesté ta justice. Non, parce que Dieu est un, et sa nature n'a pas d'opposition dans ses caractères mêmes. De sorte que la croix est le moment magnifique où Dieu manifeste conjointement, concomitamment, à la fois tout ce qu'il est, lumière et amour, et non pas lumière mais amour. Donc, c'est logique que le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Et on aime bien ce tout, qui sans doute se rapporte à la fois à bonté, justice et vérité, qui ouvre un champ totalement vaste à toutes ces manifestations que l'on peut faire, où on marche en étant lumière dans le Seigneur en le montrant. Alors, concrètement, il y a un bel exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a manifesté cela, et on le trouve en 2 Chroniques, au chapitre 31, quasiment même les mêmes termes. 2 Chroniques 31, verset 20, à propos d'Ézéchias, il est dit « Ézéchias vit ainsi dans tout Juda, et il fit ce qui est bon et droit et vrai devant l'Éternel son Dieu. » Alors, est-ce qu'Ézéchias fut parfait? Certes pas. Et la parole de Dieu nous le montre, et ça c'est un encouragement aussi. Mais il a montré ce fruit de la lumière en étant intéressé par le bien du peuple de Dieu, en étant intéressé par le temple, etc. On ne va pas le développer, le sujet d'Ézéchias, mais on peut étudier sa vie et se dire, tiens, je vais chercher ce qui, dans la vie d'Ézéchias, a été ce fruit de la lumière qui consiste en toute bonté, justice et vérité. Alors ce fruit de la lumière aussi, on le trouve, on peut le rapprocher assez fortement du fruit de l'esprit. Il va être question de l'esprit au verset 18, puisque le fruit de la lumière peut être est porté par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Et on voit que, par rapport à cela, qu'il y a des caractères qui se retrouvent aussi très fortement. Je ne veux pas développer ce point-là. Et le verset 9 formant une parenthèse, « Marcher comme des enfants de lumière, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. » Éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Donc, comment va se montrer la lumière dans notre vie, exactement comme tu le disais, c'est-à-dire en cherchant ce qui plaît au Seigneur. C'est ça la vie dans la lumière. Je ne vais pas faire selon mes propres idées, je vais faire selon l'illumination que j'ai reçue de la part de Dieu pour marcher de façon à plaire au Seigneur Jésus.
Tu disais que tu parlais de la photosynthèse, vivre dans la lumière, et la lumière produit la vie. Dans ce passage, c'est tout à fait ce qu'on voit. La lumière produit le fruit. Et il me semble qu'il y a peut-être un exemple, et on parlait aussi de la lumière vivre dans la connaissance des pensées de Dieu. Quand on lit dans le psaume 139, David dit à un moment donné, « Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. » Il vit dans la connaissance des pensées de Dieu. Et puis il avance, et un peu plus loin il arrive, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. » Regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, conduis-moi dans la voie éternelle. Il ouvre son être à la lumière de Dieu. Connaître les pensées de Dieu, et la deuxième chose, c'est j'ouvre mon... Même le subconscient sonde, mets-moi dans ta lumière et alors je vais avancer. Et conduis-moi dans la voie éternelle. Il y a cette croissance, il y a cette vie manifestée, il y a ce fruit porté. Vivre peut-être sous le regard de Dieu sans se cacher, c'est aussi le bonheur. Savoir que Dieu sonde tout et puis être là, dans sa présence, être connu de Dieu et connaître Dieu, c'est le bonheur et c'est cela aussi, je crois, vivre dans la lumière.
C'est un verset qui nous montre que la lumière est aussi pour notre bien d'une façon paisible. C'est dans la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc 1, à la fin du chapitre, Luc 1, versets 78 et 79, l'Orient, Luc 1, 78, l'Orient d'en haut nous a visités afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Voilà la bonté de Dieu, nous éclairer pour nous amener dans la paix de Dieu.
C'est pour cela que l'apôtre Paul nous laisse un précieux conseil, sans vouloir revenir en arrière au verset 6e, que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Et c'est vrai que notre cœur naturel pourrait être facilement enclin à être séduit par l'une ou l'autre chose. C'est d'ailleurs la technique et la tactique de Satan, c'est de proposer des choses qui ressemblent à Dieu, mais qui nous en éloignent progressivement. On se souvient de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit ? Mais si nous avons toute la lumière, et si nous avons accès à cette lumière, et si nous sommes vraiment au clair avec la personne de Dieu, avec ce qu'il attend de nous, si nous avons quelque peu la connaissance de ce qu'il est, si nous essayons de l'imiter parce que nous sommes ses enfants bien-aimés dans cette relation espérée, tel père, tel fils, alors il n'y aura pas de doute en nous, alors il n'y aura pas de séduction possible de la part de l'adversaire. Et nous serons amenés avec le secours de l'esprit, parce que seuls nous en sommes parfaitement incapables, mais nous savons que nous avons cette ressource extraordinaire en nous, c'est que l'esprit habite en nous. Et le Seigneur avait pu prévenir ses disciples, il prendra de moi et il vous le communiquera et il vous fera marcher dans toute la vérité. Si nous avons cette ressource extraordinaire, nous serons alors capables d'éviter il y a trois expressions qui se ressemblent, éprouver, discerner, examiner. On examine facilement ce qui concerne notre vie de tous les jours, pour connaître les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Eh bien, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec nos frères et nos sœurs, nous devrions, nous devons toujours nous poser la question de savoir ce qui est agréable au Seigneur. Un exemple pratique, se demander, tiens, dans telle ou dans telle circonstance, qu'est-ce que le Seigneur dirait, qu'est-ce que le Seigneur ferait, comment m'amènerait-il à prendre telle ou telle décision. Mais en évitant toute voie de séduction et en évitant de regarder à ce qui pourrait nous rejeter en arrière. Un petit détail sur ce manque de connaissances, je viens d'entendre dans une émission que la progression des sectes en France a doublé en quelques années. Par manque de connaissances des vrais chrétiens, probablement. Et nous sommes confondus de voir que tous ces mouvements pernicieux gagnent du terrain, alors que l'Église en général et les vrais chrétiens en perdent. Essayons de réaliser ce que l'apôtre nous demande ici, marcher dans l'amour, bien évidemment, marcher dans la lumière, mais surtout demeurer les imitateurs de Dieu, celui-là même qui nous donne toute consolation, toute exhortation, mais aussi toute bénédiction, et d'essayer de rester agréable au Seigneur, parce que c'est une des valeurs de l'œuvre de la croix, c'est par la croix que par grâce, nous avons été rendus agréables dans le Seigneur.
Éphésiens, il n'est pas dit marcher dans la lumière, c'est dans Jean. Ici, il est dit de marcher comme des enfants de lumière, suivant votre identité, suivant ce que vous êtes. Il y a peut-être une chose encore, en revenant en arrière au verset 6, les vaines paroles. Il paraît que ça fait allusion à la poésie antique où, par des belles paroles, par une belle poésie, par l'art, on attirait vers le mal. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. L'art, les distractions, souvent sont pour attiser, pour avoir l'écho dans le cœur de l'homme, pour attirer vers le mal, détourné par ces choses-là, qui nous amènent, au lieu d'aller vers la lumière, on va vers les ténèbres. Au passage, les temples actuels où on va vers l'alcool, vers Bacchus, vers Eros, ça ne s'appelle pas des boîtes de nuit. C'est donc dans la nuit, si j'ose dire. Et d'une certaine manière, Dieu veut nous attirer vers lui, vers la lumière, vers ce qui est vraiment le bonheur. Alors, pas attiré par ces vaines paroles, belles paroles, cet art qui attire. Si on regarde les titres ou les résumés, si on veut, des films qui sont présentés. L'autre jour, on est tombé dans le journal sur ce qui est à Cannes. Il y a un film où il est question d'Eric Cantona,
Et sur le journal, il est présenté comme une idole, le footballeur, et on chantait une sorte de cantique, qui est une allusion à des cantiques qu'on connaît, où à la place du nom du Seigneur, il y avait Eric. Et je n'imagine pas que... C'est difficile d'imaginer d'aller se réjouir en regardant quelque chose qui tire vers l'idolâtrie. Et puis d'autres films qui tirent vers l'immoralité complète avec un film qui s'appelle Antichrist. Mais ça, c'est quelque chose, c'est de belles paroles, c'est peut-être de l'art, c'est peut-être beau, c'est peut-être bien filmé, il y a peut-être de la belle musique, mais où est-ce que ça mène ? En tout cas, pas dans la lumière.
Comme tu l'as dit, vous êtes lumière. C'est vraiment une nature, une question de nature. Dieu est lumière. Vous êtes lumière. Je ne sais pas si quelqu'un pourra dire pourquoi il n'est pas dit « vous êtes amour » à un moment dans la Bible, parce que là, c'est quand même très fort. Hein. Vous êtes lumière. Donc, c'est une question de nature, de nouvelle nature. Le Seigneur avait dit déjà la même chose, puisque... Il disait dans le discours sur la montagne, Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et puis, il disait de lui-même, Jean chapitre 8, « Moi, je suis la lumière du monde. » Donc, cette identité, cette imitation, cet appel à être comme lui est très très fort. Et dans le même Matthieu 5, discours sur la montagne, juste le paragraphe d'avant, c'était le thème des journées mondiales de la jeunesse il y a quelques années, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et ça rejoint bien notre passage, parce que ce côté sel de la terre, ce côté donner du goût, ce côté être un peu différent, avoir la petite pointe de sel qui fait que c'est pas tout à fait pareil quand on est là. C'est notre passage, quand il est dit « N'ayez rien de commun », verset 11, avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc là, on retrouve « infructueux », ça veut dire « pas de fruit » des ténèbres. On avait juste avant le fruit de la lumière, et là, on a le contraste, « pas de fruit » dans les ténèbres. Mais plutôt, reprenez-les aussi. Il est où le verset « que votre parole soit de grâce assaisonnée de sel » Colossiens 4, verset 4:6. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce assaisonné de sel. Dans un esprit de grâce assaisonné de sel. Alors dans notre passage, on a eu tout à l'heure rendre grâce, verset 4 à la fin. Donc évitons toutes ces paroles légères, plaisantes, etc. Mais rendre grâce. Et puis maintenant, on a vous êtes lumière et reprenez-les. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit être des donneurs de leçons, à faire des commentaires, à faire des critiques, des remarques? Pas forcément. Ou plutôt, hésitons d'être même malpoli, d'être... Mais la présence même de la lumière dans les ténèbres, ben, fait que ça se voit. Le fait que ça ne se voit pas du tout, ça pourrait peut-être vouloir dire qu'on... Notre lumière est un peu cachée sous le boisseau, hein, ou sous le lit. Parce que ça se voit, une lumière. Et si nos paroles sont assaisonnées de sel, mais pleines de grâce, mais qu'il y a la petite parole de vérité, une façon différente de dire les choses, parce que notre vie est conduite par le Seigneur, eh bien ça va se voir, et les œuvres des ténèbres vont être reprises. Par notre seule présence, par notre attitude, peut-être par nos paroles de grâce assaisonnées de sel.
C'est que nous ne sommes pas sur la terre pour prêcher une morale. Les chrétiens ne sont pas appelés à prêcher une morale, ils sont appelés à prêcher l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'exhortation à l'amour, l'exhortation à vivre comme des enfants de lumière s'adresse à des chrétiens. Et donc on n'est pas là pour réformer la société en imposant une morale, c'est malheureusement ce que certains ont cru faire en voulant réaliser le royaume de Dieu sur la terre, en imposant
une morale qui ne pouvait pas être retenue, même si on est heureux qu'il y ait des lois qui soient dictées pour réfréner le mal. Mais néanmoins, on n'est pas là pour prêcher une morale, on est là pour prêcher Jésus-Christ qui transforme les vies et qui, une fois qu'on est venu à lui, permet ensuite de vivre cela. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'a pas à reprendre tout ce qui se passe autour de nous, parce que je pense que ça pourrait être une mauvaise préparation de l'évangile de paix, pour parler de ce qu'il y a au chapitre 6. Et puis aussi, les chrétiens ont été trop souvent accusés, parfois à tort, parfois à raison, d'être des moralistes purs, alors que nous avons à offrir quelque chose d'abord. Nous avons un élément positif, qui est le Seigneur Jésus, la gloire de son œuvre, le salut qu'il nous donne, l'espérance que nous avons dans le ciel, etc., etc. Donc tout ça, c'est du positif. Et tandis que si on ne faisait que reprendre, ça pourrait avoir un aspect jugé trop négatif. De sorte que, je rejoins tout à fait Frédéric, il me semble que c'est plutôt par notre attitude, par notre façon de vivre, qui naturellement fera contraste, que nous serons amenés à reprendre indirectement. Cela étant, le texte lui-même permet de comprendre que reprenez les, il s'agit peut-être des choses, mais aussi de personnes. Et alors là, comme tu le disais aussi tout à l'heure, par amour pour certaines personnes, nous avons à en reprendre dans l'Église. Là, on est dans le cercle chrétien. Et ceux qui auraient tendance à avoir peut-être un petit quelque chose en commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, à revenir un peu en arrière peut-être, eh bien là, on a un devoir d'amour de reprendre. Et c'est ce que, par exemple, Paul a fait avec justesse dans 1 Corinthiens 5, quand il a repris les choses qui se passaient. Elles ont été mises à la lumière alors que les Corinthiens avaient plutôt peut-être un peu tendance à les mettre sous le tapis, et ça a produit des fruits. Ça a produit des fruits qui sont manifestes au chapitre 2 et au chapitre 7 de 2 Corinthiens, et qui montrent comment, quand les choses ont été reprises de la bonne manière, quand la lumière a été manifestée, il y a pu avoir un relèvement. Et je bondis tout de suite à la fin du verset 14, ce relèvement qui est positif pour notre frère, pour notre sœur. Alors il y a la manière de le faire, mais il y a là aussi la nécessité qui, me semble-t-il, est impliquée dans ce verset 11.
Autrement dit, il ne faudrait pas penser que, d'une façon générale, quand nous avons affaire à des exhortations qui nous touchent un peu de près, il faut penser que la parole de Dieu dénonce seulement, elle annonce. Et c'est beau dans le même passage. Par exemple, par rapport aux relations sexuelles, oui, c'est vrai, elle dénonce la fornication, c'est-à-dire ces relations qui ne sont pas dans leur cadre, mais aussi elle annonce. On va voir cet après-midi qu'ils seront une seule chair, eh bien, c'est le vrai cadre. Alors la parole de Dieu ne dénonce pas seulement, elle annonce le vrai cadre, si on parle de ce sujet. On est surpris par le verset 14 quand même. « Se réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ vivra sur toi. » Que Paul ait fait cette exhortation à Éphèse. On le comprend aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, réveille-toi, en rapport avec la résurrection. Il y en a qui croyaient que les morts, les corps ne ressuscitaient pas. Et ils étaient dans une erreur. Il faut se réveiller, réveillez-vous. Mais qu'ils le disent aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, l'assemblée à Éphèse, représente l'Église dans son épanouissement maximum. Il n'y a pas d'autre Église qui atteint un niveau pareil. Bon. Il y a très peu de reproches qui sont faits à Éphèse par rapport à Corinthe. Au Corinthe, toute l'épître, la première épître aux Corinthiens, est pratiquement toute corrective. Même la scène. Bon. Et sinon, et bien pourtant, il y a ce réveille-toi, qui est surprenant. Et reprends-les, comme tu viens de dire, qui sous-entend peut-être qu'il y avait à Corinthe des choses qui n'allaient pas tout à fait bien. Et puis, si les exhortations sont là, c'est qu'elles étaient nécessaires. Sinon, Paul ne les aurait pas fait. Et c'est encourageant pour nous qui ne sommes pas des Éphésiens. Nos assemblées ne sont pas peut-être au niveau d'Éphèse. Et pourtant, les Éphésiens ont besoin d'exhortations, somme toute, assez ordinaire. On l'avait dit l'année dernière, on dit quelquefois l'épître aux Éphésiens est très élevé, mais il y a aussi des choses très très ordinaires, comme ne pas voler, ne pas mentir. C'est assez banal, assez ordinaire. Eh bien, c'était donné à des Éphésiens, et ici, réveille-toi. C'est-à-dire, je comprends, mais reconnais que ça ne va pas, peut-être quelque chose dans ta vie. Se réveille-toi. Tu t'es endormi. Et toi qui dors, ça a quelque chose, ça a une connotation négative au sens spirituel. Relève-toi. Qu'il y ait un sursaut dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas peut-être. Mais, et relève-toi d'entre les morts. Ouais, peut-être tu as le même comportement que les inconvertis qui sont morts moralement. Mais on a cette belle promesse qui termine le verset. Et le Christ luira sur toi. C'est toujours la photosynthèse. Mets-toi au soleil. Au soleil de l'amour divin. Tu vas voir dans ta vie, ça va changer si tu te mets au soleil. Comme quand on a froid, certains jours on a froid, on va au soleil. Ah, on est bien. Le Christ luira sur toi. C'est beau. Ça veut dire quelque chose de profond. Et puis il continue en disant marchez soigneusement. Il parle toujours de cette marche maintenant dans la sagesse.
Le terme lura sur toi, ça fait allusion à la lumière du soleil qui se lève. La nuit est là et puis il y a le soleil qui arrive et cette lumière qui petit à petit pénètre partout et fait du bien. Et apporte sa chaleur et apporte sa lumière.
Est-ce qu'il n'y a pas avec ce verset 14 aussi une indication? On veut reprendre les autres, on veut aider les autres, c'était dans les versets précédents. Mais en réalité, où sont les ressources? Alors bien sûr, peut-être y penser devant Dieu, c'est marcher soigneusement. Mais est-ce que ce n'est pas la proximité avec Christ qui apporte une vraie lumière et qui fait qu'il y a un rayonnement autour, sans que tellement on le recherche, parce que c'est ce qui est de Christ qui se voit. Quand on regarde le verset qui est cité ici, quand on le lit dans Ésaïe, ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire. C'est Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Voici les ténèbres couvriront la terre, l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, sa gloire sera vue sur toi. Les nations marcheront à ta lumière. Alors il y a toute une application prophétique, ce n'est pas le moment d'en parler, mais c'est la lumière de Christ qui est vue autour de nous quand nous sommes réveillés proches de lui. Et c'est là l'idée.
Dans le contexte immédiat de ce chapitre 60, verset 1, cette belle suite de chapitres, les chapitres 51 fait 60, chapitre 59, verset 19, et du lever de soleil sa gloire. On retrouve cette expression de lever du soleil dont tu parlais. Et verset 21, et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche. Tu es sans doute collectif pour le reste prophétiquement. Mais pour nous, comment vivre aussi à la lumière? Comment faire que cette chaude lumière de l'amour, vous savez, on parle de lumière froide, de lumière chaude. Là, ici, vraiment, on est à une lumière chaude. Celle qui commence par bonté ne peut pas être autrement qu'une lumière chaude. Comment être à cette lumière chaude de l'amour? Eh bien, en se mettant à l'écoute de la parole, en laissant l'esprit agir en nous, nous remplir, et comme cela, le Christ luira sur nous et resplendira dans notre cœur. Un autre point aussi, on a parlé du royaume, le royaume de Christ et de Dieu. Et ce chapitre 60 d'Ésaïe est sans doute une des plus belles descriptions de l'État dans le royaume futur, sous une forme symbolique. Et en fait, quand on se met à cette lumière du Seigneur Jésus, c'est comme si on anticipait un petit peu cette lumière du royaume qui un jour brillera sur la terre, quand le soleil de justice apparaîtra aux yeux de tous. Et quand on se met au soleil du Seigneur Jésus, nous qui aujourd'hui sommes le royaume de Dieu sur la terre, nous avons été constitués un royaume, aujourd'hui, eh bien, nous vivons, nous anticipons déjà aujourd'hui le royaume.
Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur la lumière froide et sur la lumière chaude pour te donner une petite indication à la question que Frédéric posait. Lumière et amour, il dit que nous sommes fils de la lumière, nous sommes lumière et non pas amour. L'image que l'on peut prendre, parce qu'il faut relire profondément Jean 1 et puis 1 Jean 1 aussi, l'image que l'on peut prendre dans la physique, la lumière est composée de plusieurs fréquences. Il y a les fréquences froides, il y a les fréquences chaudes, il y a les UV qui brûlent, il y a les infrarouges, donc c'est des ondes courtes, et il y a les infrarouges qui sont plus longs, qui réchauffent. Eh bien, si on prend cette image-là pour essayer de comprendre ce qui est infini, mais ce qui est quand même les choses dans lesquelles nous devons entrer, il me semble que tous les caractères de Dieu sont inclus dans la lumière, parce que le caractère principal, plutôt la nature principale, c'est la vie. Jean chapitre 1, c'est la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce qui est amour, grâce, bonté, c'est un petit peu comme les fréquences, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs fréquences. S'il en manque une, elle n'éclaire pas, elle n'est pas lumière.
Peut-être s'arrêter là, il est midi moins 5, on va chanter et puis voilà, prier.